Chers frères et sœurs, nous nous rencontrons ce soir nombreux pour la dernière rencontre, la dernière étude sur la vie des prophètes Élie, Élisée. Nous en avons fait plusieurs sessions et nous sommes arrivés à la dernière. Je l'ai intitulée « La double portion » et le 14e miracle. Je vais donc reprendre quelques épisodes de la vie du prophète Élie et Élisée. Au premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 14, je lis que Élisée répondit à l'Éternel: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Nous passons au deuxième livre des Rois, chapitre 2, deuxième livre des Rois, quelques pages plus loin, au chapitre 2, et je vous lis à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai élevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Un dernier texte, là j'éprouve votre patience, dans le deuxième livre des Rois au chapitre 13, je lis le verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et de là nous passons au verset 20 de ce même chapitre, et Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se releva sur ses pieds. Je voudrais donc vous parler de la vocation du prophète Élisée et en tirer les encouragements et les enseignements dont nous avons besoin aujourd'hui. Je ferai un retour en arrière dans la vie de ce grand serviteur de Dieu pour considérer d'abord, premièrement, son appel. Dans certains cas, Dieu appelle ses serviteurs lui-même, et pour le faire, il ne s'entoure d'aucune aide. C'est ce qui est arrivé dans le livre des Actes, au chapitre 13, dans l'assemblée d'Antioche, où Dieu dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». C'est de cette façon que Dieu appelle parfois ses enfants à son service. L'appel de Dieu est une conviction intérieure qui nous est imposée par le Saint-Esprit, et à l'action duquel il devient plus pénible de résister que de céder. Ce fut l'expérience du prophète Jérémie, qui dit au chapitre 20 du livre qui porte son nom, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader ». Au verset 9, il poursuit par ces paroles, « Si je dis, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Dans d'autres cas, Dieu se sert d'hommes pour en appeler d'autres à son service. C'était le cas d'Élisée. C'est par Élie que Dieu l'a appelé. Dieu se sert ainsi de saints hommes qui jettent sur d'autres une influence heureuse autant qu'irrésistible. Et plus d'un serviteur de Dieu doit son appel, son ministère, à un exemple, une attitude, un regard ou une parole qui ont laissé sur eux une impression indélébile. Pour la conversion des âmes, le Saint-Esprit s'y prend aussi de deux façons. Le Seigneur ne laisse à personne d'autre qu'à lui-même le soin de convertir Saul de Tarse. Il l'entreprend tout seul dans la dramatique rencontre sur le chemin de Damas. Ainsi, certains trouvent le salut dans un tête-à-tête avec Dieu ou dans un seul-à-seul avec la Bible qui est la parole de Dieu. Dieu seul leur parle, à eux tout seuls. Ils se convertissent, les autres n'y sont pour rien. Dans d'autres cas, et c'est le moyen habituel, Dieu enverra Pierre à la maison de Corneille pour qu'ils s'y convertissent tous, ou il enverra Philippe au désert pour qu'il y rencontre l'Éthiopien qui lisait sans le comprendre le manuscrit d'Ésaïe. Deuxièmement, Élisée n'a pas essayé d'entrer dans le service avant d'y être appelé. Ce n'est pas de son propre chef qu'il s'est attribué cette charge. Seul un imposteur peut prétendre à une telle chose. Ce n'est que lorsqu'il a été sûr de l'appel de Dieu qu'il a quitté ses bœufs, sa charrue et sa famille pour suivre Élie. Et cela nous amène à nous poser une question. Qu'est-ce qui constitue l'appel de Dieu pour un service spécial? D'abord, je souligne le besoin. Le besoin n'est pas l'appel. Le besoin de serviteur de Dieu se fait pressant partout. Et on ne saurait trop insister sur ce point. Cependant, le besoin seul ne constitue pas l'appel. Regardez notre Seigneur. Pendant les 30 premières années de sa vie, il n'a pas bougé. Pourtant, les besoins étaient là, mais il a attendu l'heure de Dieu. Non, le besoin n'est pas l'appel. L'occasion non plus n'est pas l'appel. Il y a beaucoup d'occasions pour servir le Seigneur. Si des portes se ferment, d'autres s'ouvrent comme jamais auparavant. Je pense à des pays d'Afrique où, munis de quelques diplômes techniques, des jeunes pourraient pendant quelques années servir le Seigneur tout en pourvoyant, en partie du moins, à leurs propres besoins. Mais ni le besoin, ni l'occasion, à eux seuls, ne sont pas l'appel. La capacité non plus n'est pas l'appel. Nous pouvons avoir toutes les qualifications utiles pour le service de Dieu, spirituellement, mentalement, physiquement et intellectuellement. Toutes précieuses et indispensables que soient ces choses, elles ne constituent pas en elles-mêmes l'appel de Dieu. L'invitation n'est pas nécessairement l'appel de Dieu. Quelque prétendu Élie peut venir vers nous et essayer de nous entraîner dans ses activités ou sa vision des choses. Il faut alors s'assurer que l'invitation est bien la voix du maître et non celle d'un gourou. Le désir n'est pas l'appel. Nous pouvons avoir le brûlant désir de servir le Seigneur et que Dieu nous garde de jamais faire baisser cette flamme en celui chez qui elle brûle, mais il faut prendre garde à ne pas s'avancer avant de recevoir son ordre de marche. En bref, l'appel de Dieu, c'est... Alors, c'est quoi l'appel de Dieu? C'est cette conviction profonde, intérieure, accompagnée par la paix du cœur et confirmée par la parole de Dieu, que Dieu nous veut pour un certain travail et à un certain endroit. Puis-je répéter cela en bref? C'est cette conviction profonde, intérieure, accompagnée de la paix du cœur, que Dieu nous veut pour un certain travail et à un certain endroit. Troisièmement, Élisée fut appelé à un travail très difficile. Est difficile le travail de Dieu, l'est toujours, assurément. Le Seigneur ne nous appelle que très rarement à quelque chose de facile. Mais dans le cas d'Élisée, son ministère allait être particulièrement difficile. Lisez, ou relisons, le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 17. « Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. » C'était un ministère de mort. Était-ce une chose facile que de faire mourir ceux qui avaient successivement échappé à l'épée de ces deux terribles hommes, qui étaient Hazaël et Jéhu? Était-ce aussi une chose facile que de verser de l'eau sur les mains d'Élie et d'être à son service pendant 9 ans? Non, ce n'était pas facile que d'avoir Élie pour père et de s'en montrer le digne fils, mettre l'idolâtrie à mort, dénoncer le péché sous toutes ses formes, ne pas pactiser avec le mal ambiant, faire mourir la chair avec ses passions et tenir bon pour la vérité, c'était là un service très difficile. Mais il avait été formé à bonne école. Et sa mémoire était encore pleine des exploits d'Élie lorsqu'il fit venir la sécheresse, quand il mit à mort les 450 prophètes de Baal, extermina 2 compagnies de 50 soldats chacune et prononça la condamnation à mort d'Akab. À son tour, il allait devoir exercer les mêmes rigueurs, et dans ce qui nous est rapporté de lui, il y a la lèpre du général Naaman qui s'attache à Géhazi, et la malédiction de 42 jeunes gens de Bethel qui sont aussitôt déchirés par 2 ours. Il faut nous faire à l'idée que, malgré la meilleure alliance dans laquelle nous sommes entrés par notre conversion à Jésus-Christ, malgré la bonne nouvelle, qui est l'essence du message que nous devons annoncer au monde, nous avons, par la force des choses, et à cause de ceux qui rejettent Christ et de ceux qui s'ancrent dans leur péché, nous avons un ministère de mort qui côtoie le ministère de vie. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, dit que nous portons une odeur de mort donnant la mort. Et ce ministère de mort, nous le portons inscrit dans notre vie et notre chair. N'est-il pas écrit dans l'épître aux Romains, au chapitre 6, « N'est-ce pas en la mort de Jésus-Christ que nous avons été baptisés ?»« Nous portons, dira-t-il encore, partout où nous allons, la mort de Christ en nous, c'est-à-dire la mort à un genre de vie que Dieu condamne, la mort au péché, la mort à la conformité au siècle présent, en un mot, la mort à tout ce qui fait la raison de vivre du monde. » Or, ce nouveau genre de vie que nous recevons à la nouvelle naissance est aberrant pour celui qui ne l'a pas reçu. Cette mise à mort du péché dans la vie du chrétien fait mesurer à l'inconverti la distance qui le sépare du royaume de Dieu, et la tâche redoublera de difficultés lorsqu'aux actes nous y joindrons la parole, et surtout la parole du témoignage et de la prédication. Un christianisme décadent voudrait éviter ce que la Bible appelle l'opprobre du Christ. Et il croit l'avoir trouvé, cette parade, par une certaine fausse présence au monde, où le ferment de l'Évangile est dilué à des doses tellement infinitésimales qu'on ne pourrait même pas parler d'homéopathie évangélique. Ce qui caractérise le nouvel évangile social que l'on présente au monde, c'est qu'il n'a plus aucune odeur ni de mort ni de vie. Plus de péché, plus d'enfer, et bientôt plus de Dieu. Dieu sans Dieu, entend-on dire. Le résultat, c'est que tout devient incolore, inodore, insipide. Soyons sur nos gardes. Nos milieux évangéliques n'en sont pas immunisés. Nous avons commencé d'amorcer la dégringolade dans laquelle d'autres nous ont précédés. Les messages de jugement sont de plus en plus contestés et se font d'ailleurs de plus en plus rares. La grande vogue, c'est de parler de l'amour de Dieu avec un A majuscule. Puis-je attirer votre attention sur deux constatations que j'ai faites? Je les ai trouvées tout seul. La première, c'est que l'expression « la colère de Dieu » se rencontre un aussi grand nombre de fois dans la Bible que l'expression « l'amour de Dieu » et ses dérivés. La deuxième, c'est que dans les messages du livre des Actes, les apôtres n'ont jamais prêché, il ne nous a pas été rapporté qu'ils aient jamais prêché l'amour de Dieu. Ils prêchaient le jugement à venir, la repentance, le pardon des péchés, la foi en Jésus-Christ, la résurrection, mais pas l'amour de Dieu, bien qu'il était partout sous-jacent, je l'admets. Ils ne parlaient pas d'amour au monde. Ils en étaient animés, ils en étaient remplis. Ça leur sortait par tous les pores de la peau. Leur langage était d'acier. Leur amour était enveloppant comme une caresse. Jamais ils n'ont sacrifié au goût du jour. Et lorsque Félix et sa concubine Drusille viendront entendre l'apôtre Paul sur un sujet spécifique, la foi en Christ, l'illustre apôtre, faisant fi de leurs désirs, les fera trembler en leur parlant de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. Et Félix, tout effrayé, lui a répondu, « Pour le moment, va-t'en, Paul, quand je trouverai un moment plus convenable, je t'appellerai. » Les menteurs comme Ananias et Saphira ne pouvaient résister dans l'assemblée des saints. Ils tombaient morts en leur présence. Et les jeunes gens, Loin de penser à l'amour libre, étaient les nécrologues de l'Église. Ils étaient tour à tour brancardiers, croque-morts et fossoyeurs. Le résultat était qu'on craignait Dieu, le péché était redouté, et la vie divine pouvait s'épanouir dans l'amour mutuel que Dieu versait dans les cœurs par le Saint-Esprit. Dès que nous répondons à l'appel de Dieu, nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle où les ennemis ne manquent pas tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous devenons la cible particulière de Satan. À quoi serviraient les armes du chrétien mentionnées dans Éphésiens 6, et auxquelles j'ai fait allusion, si nous n'avions pas à lutter contre les ruses du diable, contre les dominations, autorités, principautés du monde des ténèbres, et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes? C'est pourquoi, comme Élisée, nous avons besoin d'être revêtus de deux qualifications fondamentales qui sont stabilité et endurance. Quatrièmement, Élisée répondit à l'appel de tout son cœur. Il n'est pas possible de rapprocher l'adieu d'Élisée à ses parents d'avec l'adieu du jeune homme mentionné dans l'évangile de Luc au chapitre 9, qui s'est offert à suivre le Seigneur et qui s'est entendu répondre « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu ». On ne peut pas les comparer, car Élisée, lui, ne risquait pas de se laisser reprendre par l'ambiance familiale. Remarquez qu'il fait trois choses. 1. Il court après Élie. 2. Il va dire adieu aux siens. 3. Il coupe les ponts en cassant sa charrette et en immolant ses deux bœufs. Ces trois choses sont la garantie d'un cœur entièrement et indéfectiblement rendu à Dieu. Suit alors cette longue période, estimée à 9 ans, d'humble service caché, où, entre autres choses, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Nous en arrivons maintenant à la deuxième plaque tournante de sa vie, où il va demander et recevoir la double portion d'esprit qui reposait sur Élie, ce qui va lui permettre de mener à bien son difficile ministère prophétique. Voyons donc, en cinquième analyse, voyons sa détermination. Cela se lit dans les premiers versets du deuxième livre des Rois. Écoutez ce dialogue à l'emporte-pièce entre les deux hommes, au moment où Élie va être enlevé au ciel par des chars et des chevaux de feu. Au chapitre 2 et verset 2, Élie lui dit « Reste ici. Je ne te quitterai point, répond Élisée. » Au verset 3, « Sais-tu que Dieu va enlever ton maître, disent les fils des prophètes ? Je ne sais, taisez-vous, répond Élisée. » Au verset 4, « Reste ici, dit à nouveau Élie. Je ne te laisserai point, répond Élisée. » Au verset 5, « Sais-tu que Dieu va enlever ton maître, redisent les fils des prophètes ? Je le sais, taisez-vous, réplique Élisée. » Au verset 6, « Reste ici, lui dit une troisième fois Élie. Je ne te quitterai point, lui répondit Élisée. » Quelle détermination ! Ah, ça se passe de commentaires, quel crack que c'est Élisée ! C'est à vous couper le souffle ! Et remarquez que rien ne lui facilite la tâche. Aucune parole d'encouragement, ni d'Élie, ni des fils des prophètes. Tout est fait pour le détourner, mais rien ne le rebute. On comprend d'avance, même sans connaître la suite, qu'avec un esprit pareil, le mot « impossible » n'est pas français, et qu'il aura ce qu'il veut. Sixièmement, pourquoi cette détermination ? Parce qu'il avait en vue une double portion. Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé, dans le passé, de juger hâtivement le désir d'Élisée d'avoir une double portion. J'ai parfois pensé, irrespectueusement, je l'avoue, « Eh bien, Élisée, tu ne te prends pas pour la cinquième roue d'un char. Tu ne te crois pas sorti de la cuisse de Jupiter. » Si tu avais demandé le double de ce qu'avaient les fils des prophètes, là je l'aurais compris, mais osait demander le double du plus grand prophète d'Israël, qui lui-même n'avait de commune mesure avec personne. Quelle audace que la tienne ! Une bien grosse sonnette pour un si petit vélo. Oui, quelle audace, quelle sainte audace pour Dieu ! Car c'est ainsi qu'il faut comprendre la chose, et non pas comme le produit ou le sous-produit d'une ambition personnelle démesurée. Élisée est de la trempe de ceux qui illustrent ce verset un peu mystérieux du Nouveau Testament. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Élisée est de la lignée de ceux qui, pour Dieu, en veulent tant qu'ils peuvent. Il est comme Aksa, la fille de Caleb, qui vient voir son père avec la détermination de recevoir plus qu'elle n'a reçu, et qui dit à son père, « Tu m'as donné des terres au midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna la double mesure, les sources d'en bas et les sources d'en haut, comme dit notre version, les sources inférieures et les sources supérieures. Il est de ceux qui prennent leur lance et frappent par terre, non pas trois fois, mais sept fois, car ils ne veulent pas moins que les sept septièmes de la victoire de Dieu. Il n'est pas de ceux qui se contentent du médiocre ou même du normal. Non, dans sa vie, il ne peut rouler qu'au supercarburant. 100 degrés d'octane, Seigneur, sinon ma vie cogne. La tâche est si grande, la moisson si vaste, les ouvriers si peu nombreux et le temps si court qu'il sait qu'une mesure normale ne peut suffire. Malgré les interventions d'Élie, la situation morale et spirituelle de la nation ne s'était pas améliorée. Jézabel était encore en vie et Athalie était déjà en place. Le flot de l'apostasie risquait de submerger la nation. D'autre part, le pays qui avait eu une armée de 1 500 000 hommes était réduit à quelques 7 000 hommes. C'était le déclin sur tous les fronts et la fin n'était plus éloignée. Et si Élisée demande une double mesure, c'est parce qu'il a compris qu'il doit mettre les bouchées doubles. Il sait que sa vocation de prophète à part entière est sur le point de se réaliser. Il sait surtout que le temps des grandes responsabilités approche, qu'il ne pourra plus vivre dans le sillage d'Élie. Il sait qu'il va devenir à son tour une tête de proue et qu'il devra prendre seul et à son corps défendant de redoutables responsabilités. Il sait que dans quelques heures il va être orphelin de père spirituel et il panique intérieurement. Les exemples qu'il a vus en Élie font quelque peu chavirer son esprit. La succession lui semble trop lourde et il pense, « Seigneur, je suis deux fois trop petit, alors donne-moi le double. » C'est le « Qui suis-je » de Moïse qui se renouvelle. C'est le « Mais qui est suffisant » de l'apôtre Paul qui se répète. Alors pour un homme qui est assez humble pour reconnaître qu'il n'est que la moitié de l'autre, il lui faut une double mesure. Dites-moi, quel parallèle peut-on tirer avec la situation actuelle? Si l'on veut tant soit peu faire échec au raz-de-marée sans précédent qui commence à déferler sur le monde et sur l'Église en particulier, il ne suffit plus d'avoir des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Plus que jamais, il va falloir être rempli du Saint-Esprit. La tâche devient si grande, si difficile, si désespéré qu'il faut des hommes et des femmes qui se dédoublent, qui vont au-delà d'eux-mêmes, qui en veulent deux fois plus parce que le péril est deux fois plus grand et plus proche qu'il ne l'a jamais été à aucun moment de l'histoire du monde. Dans l'Église, l'un des traits saillants de la fin des temps, c'est l'apostasie. En voici un exemple qui date de quelques années. Le groupe d'église X, je dis X pour ne pas le nommer, a tenu un colloque à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis, où il y avait 2 000 participants. Ils y ont appris quelles étaient les plus récentes idées et tendances quant à l'adoration. Et le responsable de l'église de San Francisco, le pasteur, a dit, « Dans nos réunions, on s'embrasse l'un l'autre. Nous nous respirons l'un l'autre. Nous nous palpons. Nous nous tâtons l'un l'autre. Le président de mon conseil est un homosexuel avoué. Et pourquoi pas? Cette façon de faire permet à chacun de trouver son identité sexuelle. La plupart de nos gens croient à la vie en communauté. Je n'ai pas marié un seul couple dans mon église qui n'ait vécu ensemble auparavant. Une des qualifications qu'on demande de nos secrétaires, c'est qu'elles soient sexy et portent des mini-jupes. Si une femme est sexuellement désirable, pourquoi ne pas le lui dire? Une de nos jeunes filles a donné le jour à un enfant en dehors du mariage. Elle est venue devant l'église pour y dire sa joie intérieure d'avoir eu un bébé sans en concevoir une honte morale quelconque. Les gens trouvent qu'il y a du piment dans nos rencontres d'église. Nous croyons que les gens doivent pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Certains y ont trouvé un tel stimulant qu'ils se sont dévêtus. J'ai censuré une partie de ce reportage que, par pudeur, je n'ose pas reproduire en entier. Reportage dont l'authenticité est garantie par un de nos frères et par l'éditeur d'une revue chrétienne sérieuse qui a écrit « J'ai visité cette église pendant mon voyage dans ce pays. Ce que mes yeux ont vu confirme les dires de ce pasteur. » Ces choses ne se passent pas chez nous, diront certains. En êtes-vous tellement sûr? Il n'y a pas longtemps, chez nous, en Suisse, un dimanche matin, ma femme et moi, nous nous sommes trouvés assez fortuitement au culte d'une assemblée qui, naguère encore, se targuait d'être la pure Philadelphie d'Apocalypse 3. Le culte d'adoration s'était ce matin-là transmué en culte d'information, comprendra qui pourra. Allez comprendre. À un moment donné, un tout jeune homme a été présenté, je souligne, présenté et applaudi, je ressouligne, parce qu'il venait d'être l'heureux papa d'un bébé né de sa liaison avec la fille d'un ancien de cette assemblée. Si cet état de choses ne tient pas le haut du pavé, les standards de la moralité sont sérieusement revus à la baisse. Dans une autre occasion, lors d'un camp de ski d'un groupe de jeunes d'une autre communauté évangélique, un temps libre a été rempli par la projection d'un film contenant des scènes d'une violence et d'une cruauté inouïe, et une séquence que, sans hésitation, je qualifie de pornographique. Et ce film avait été prévisionné par les adultes responsables du camp. Ma protestation a été perçue comme venant de quelqu'un qui vit en complet décalage avec son temps. J'étais du genre la petite maison dans la prairie. La pollution des âmes et des esprits dépasse de loin tous les dangers d'environnement dont on parle à propos de la planète. De plus en plus, on assiste à un laisser-aller moral et doctrinal et à un rejet de l'autorité des Saintes Écritures. Nous aussi, nous avons besoin d'une double mesure de l'esprit. La situation est devenue telle que la double mesure souhaitée devrait elle-même être multipliée par deux. Arrivons maintenant au 14e miracle. Je dis 14e parce que Élie avait fait 7 miracles retentissants et Élisée a demandé le double. Il devait donc y en avoir 14. Élisée se retrouve seul avec à ses pieds le manteau qu'Élie a laissé tomber. Il serre dans son cœur la promesse d'un Dieu qui ne peut pas mentir. La mesure double lui est accordée. et le voilà parti pour la grande et merveilleuse aventure d'un ministère fructueux. Les miracles et les interventions spectaculaires se succèdent rapidement. L'impiété est tenue en échec pour un temps, et avec elle, tous les malheurs qui en sont la suite inévitable. Ceux qui sont découragés reprennent courage, le reste des combattants pour la vérité se regroupent et forment un dernier carré qui, longtemps encore, donnera du fil à retordre aux forces de l'apostasie. J'ai compté les miracles faits par Élie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le plan du nombre des miracles, Élisée a atteint la mesure d'Élie avec la résurrection du fils de la Tsunamite. Le point culminant sera-t-il le point d'arrêt? Dieu va-t-il tenir sa promesse? Il la tient. La liste s'allonge, malgré les efforts de Satan qui veut faire mettre Élisée à mort. 8, 9, 10, 11 miracles, 12 miracles, 13 miracles. Il n'en manque plus qu'un pour faire 14. Juste le double. Mais 13 est décidément le mauvais chiffre. Élisée tombe gravement malade, et avant qu'il ait pu achever son ministère, il meurt, laissant un miracle en suspens. De graves questions se posent pour nous. Puisque l'œuvre n'a pas atteint sa dimension promise, les promesses de Dieu ont-elles tourné court ? L'enfer va-t-il arracher au Fils de Dieu le 1/14 de sa victoire? La mort prématurée de Jésus sur la croix, même si cette mort est un triomphe, ne laisse-t-elle pas l'œuvre du salut inachevée? Peut-on croire en Dieu jusqu'au bout? Il est l'alpha, mais est-il l'oméga? Il est le commencement, mais est-il la fin? Dieu ne serait-il qu'à la mesure du livre de la Genèse qui commence par le majestueux « Au commencement Dieu » et qui se termine par le lamentable « Dans un cercueil en Égypte » Dieu aurait-il mal calculé la dépense au point de ne pouvoir achever son œuvre? Satan va-t-il ravir à notre Seigneur une partie de sa gloire? Dieu n'en aurait-il que les 13/14? Si ses pensées étaient exactes, il nous faudrait encore aller plus loin dans la logique des choses et nous demander si la victoire de la croix a été aussi totale que la Bible l'affirme. La Bible ne serait-elle plus qu'au 13/14 vrac? Notre sécurité éternelle est-elle encore assurée? Ne serais-je pas le 14e, l'oublié au retour du Seigneur? Question angoissante, s'il en est. Dieu est puissant, mais est-il le tout-puissant? L'omniscient aurait-il commis une erreur d'appréciation ou sous-estimé l'adversaire? Oui ou non, puis-je mourir en paix dans les bras de mon Sauveur? Le tout est accompli, n'est-il pas devenu le presque tout est accompli? Manque-t-il une arche au pilier du pont qui enjambe les temps de feu? Dois-je suppléer à l'œuvre de Dieu? Au lieu de dire « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ », faut-il seulement dire que toutes les promesses de Dieu sont oui sans garantie d'amen? Le bras de Dieu est-il un 14e trop court pour me secourir? Affreuse pensée que celle-là, ainsi nuations qui sentent le soufre à planer. On sait d'où elles viennent, elles ont un relent de géhenne, elles n'ont que trop souvent été suggérées dans l'esprit du racheté du Seigneur lorsqu'il passe par quelque grande douleur ou faute ou circonstance difficile. La réponse finale se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 13, dans les versets 20 et 21, que je tiens à vous relire. Je vais le faire lentement. Élisée mourut, et on l'enterra. Il en est au 13-14e, là. L'année suivante, et je souligne, l'année suivante, des troupes de Moab pénètrent dans le pays, et il arriva que, comme on enterrait un mort, voici on vit venir la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. C'est ce 14e miracle, et comme le matin de Pâques dans la vie d'Élisée. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Dieu fait éclater son triomphe jusque dans le domaine préféré du prince de la mort. C'est quand tout semble perdu que la promesse est inachevée, qu'il ne reste plus qu'un squelette décharné, un mort que l'on enterre, une bande de pillards, un cadavre précipitamment abandonné, quand la situation est au plus bas. Quand tout parle de défaite, c'est alors que le Seigneur vient dire l'amen de sa promesse d'autrefois. Écoutons maintenant sa promesse pour nous à la lumière de cet événement. Dans Philippiens 1:6, il est dit, « La bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il l'achèvera quand ?» Au jour de Jésus-Christ. C'est là que nous aurons le 14e, car il ne reste plus pour le racheter qu'une seule promesse à accomplir. Nous attendons la rédemption de notre corps, nous dit Romains 8. Et même si ce corps doit descendre dans la tombe, on peut chanter « Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai tout glorieux ». Le racheté sait que c'est vrai. Il peut croire à la parole de Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. De cela, le racheté en a la garantie. Il regarde au matin du dimanche de Pâques, et entrant avec Pierre et Jean dans une tombe vide, il acquiert la certitude que ce qui paraît incomplet sur cette terre ou dans la vie trouvera son plein accomplissement lorsque Jésus aura mis le dernier ennemi sous ses pieds, c'est-à-dire la mort. Dieu nous montrera que des promesses ont été accomplies sans que nous en ayons connu leur achèvement, comme Élisée, qui a attendu un accomplissement qui ne s'est pas fait de son vivant. Dieu nous révélera les aspects secrets de son œuvre. Il nous montrera ses œuvres cachées. Y a-t-il une chose qui reste en suspens dans votre vie avec le Seigneur? Sachez que tout ne se finit pas avec cette vie-ci. Pour l'enfant de Dieu qui a vécu des promesses de son Père céleste, tout n'est pas joué avec la mort. Ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Ce n'est pas la camarde qui dira l'amen final, c'est Dieu. Dans l'Apocalypse, il est dit des élus décédés, leurs œuvres les suivent. Il y a une suite. Plus d'une promesse est accomplie à titre posthume. Plus d'un fils prodigue s'est converti après la mort d'un père ou d'une mère qui ont tant prié pour lui sans voir la réponse à leur prière. Le 14e appartient à Dieu autant que les 13 premiers. Si c'est là une des grandes leçons de l'Ancien Testament, si c'est là un enseignement à tirer du peuple terrestre de l'Ancienne Alliance, combien plus sûr encore est la promesse faite au peuple céleste de la nouvelle et meilleure alliance, et qui est garantie par celui qui est plus grand qu'Élisée, celui qui termine le dernier livre de la Bible par ces paroles, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin », et qui nous dit « Oui, je viens bientôt ». Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, brièvement mais intensément, nos cœurs saluent ton triomphe, ton 14e. Tu es le vainqueur, tu es ce que nous révèle l'Écriture, et nous te remercions de ce que tes promesses pour nous sont oui et amen. Aucune promesse ne faillira. Tu nous as pardonné, tu nous as accueillis, tu nous as donné des assurances, et elles seront comme tu l'as dit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Donne-nous, Seigneur, de vivre de cette excellence. Donne-nous d'y plonger les regards et d'y baigner notre âme, en quelque sorte, tous les jours de notre vie. Garde-nous, Seigneur, aujourd'hui. Nous nous quittons, cette fois-ci, pour de bon. Et nous te demandons de nous rappeler toutes les leçons tirées de la vie de ces deux grands hommes. En n'oubliant pas, Seigneur, que celui qui doit tirer nos regards définitivement, c'est l'homme Christ Jésus, comme il est appelé dans ta parole. Seigneur, attache nos cœurs à sa personne, à son œuvre, à tout ce qui le concerne. Et nous le disons de tout cœur, nous le disons avec force, Seigneur, maintenant, reste avec nous. Et bénis tes églises, ton église, dans les temps difficiles qu'elles traversent. Seigneur, suscite encore des Élie et des Élisée au milieu de nous, nous te le demandons. Et cela au nom béni, heureux, éternellement béni du Seigneur Jésus. Amen, Seigneur.